avez pas présenté mes bons vœux.
Je les attendais.
CO2, mon amour.
Je vous les présente alors.
Je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année.
Avec Denis Chesson.
Voilà, plein de bonnes choses. Bah oui, pour vous aussi.
Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, mais avec véritablement un cap de 2018, sur l'action. Donc agissons avec aujourd'hui Florent Beauvallet à la technique et assisté de Camille Blanès et Hélène Bizio qui réalise cette semaine l'émission. Alors des vœux, oui, des vœux à volonté. Vous savez, c'est un peu comme les lasagnes, il en faut quand même plusieurs couches pour que ça fonctionne un petit peu. En veux-tu ? Eh bien, en voilà. Des vœux pieux quand on prie le Seigneur ou un autre tout-puissant, alors qu'il fasse que les hommes respectent un peu mieux sa prétendue création. Vœux pluvieux, et pas qu'un peu en ce moment, mais aussi vœux pluvieux, alors d'un an, deux, trois ou cent. Parce qu'on les a si souvent faits, ces vœux peaufinés, vous savez, gravés sur cuivre à l'eau forte, enluminés, avec des petits culs d'amour ailés autour d'un cadre. Des vœux dorés sur tranches, alignés en rayons et qui dorment parfois dans les couloirs des ministères. Simplement qu'ils se réveillent, oui, les vœux, et qu'ils passent eux aussi à l'action. Qu'ils courent, les vœux d'amour et de bien-être, comme des fous dans les collines, les prairies, en plein soleil, avec le chevalet, tablier, chapeau de paille et palette de couleur pastel. Qu'ils brossent enfin, dans les vents furieux, la toile d'un monde magnifique et un peu plus rebelle. Tiens, je veux de la neige à Noël. Et bah pour Nivose, cette année, en masse, on en a eu. Et même peut-être parfois un peu trop. La météo fait-elle des caprices? Joue-t-elle avec nos nerfs? Et perturbe-t-elle le calendrier solaire? Qui du climat? Qui de la météo? Alors on fait de la luge sur la côte Est, on casse des gros glaçons dans le whisky du Niagara et ça brûle en Californie. Mais confiance, Donald joue au poker. Il assure à tous les foreurs des mers qu'hiver, été, on ne manquera ni de gaz, ni de fuel, encore durant des années. Et en fait, aujourd'hui, il y a deux continents. Vous avez le monde d'un côté, vous avez les États-Unis de l'autre. Le réchauffement climatique a bien de la chance de s'arrêter aux portes des États désunis par les grands froids, les tempêtes, les incendies. Rouvrez, rouvrez les robinets, faites chauffer le dollar, les pipelines et l'essence. Oui, le climat s'emballe, la terre est comme une boule à neige secouée dans tous les sens. Et c'est une très jolie dame mûre, notre terre, à la moitié de sa vie. Elle nous porte, nous supporte, nous rapporte, nous emporte, nous ouvre ses portes de la beauté sans pareil. Et toi, l'ami, qu'est-ce que tu regardes? Le verre à moitié vide? Ah non, non, non. Savoure celui à moitié plein. Parce que le pessimisme ne change rien et en plus c'est moins bon pour la santé, ça a été prouvé. Et tu verras qu'en marchant sur les quais des possibles, il est sacrément heureux d'agir. Alors aussi à vous, à vos proches que vous rencontrez et touchez, et vos 10585 amis sur Facebook que vous ne verrez pas, eh bien je ne vous souhaite pas d'être le premier, mais d'être heureux. Je ne vous souhaite pas du plus, mais du mieux. Alors des vœux, donc plein de vœux au cours de cette émission. Vous allez retrouver des gens comme Charles Bois, comme Guéluc, comme Cyril Dion, Isabelle Delannoy, donc aussi avec nous, avec des vœux symbiotiques. Et puis, je vais me tourner vers le ciel. Je vais me tourner vers Guillaume Cana, qui est journaliste scientifique, qui observe et qui fait observer le ciel depuis très longtemps, donc avec un blog qui s'appelle Autour du ciel. Donc ça va être des vœux étoilés. Bonjour Guillaume Cana. Et alors on va peut-être d'abord regarder, non pas le ciel du soir, mais d'abord le ciel du matin.
Bonjour Denis. Alors, des très belles matinées, effectivement, surtout en ce moment, parce que il y a deux planètes qui nous donnent un spectacle somptueux dans le ciel du matin. Ce sont Jupiter et Mars. Et Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. On la voit très très bien à l'œil nu. Elle est visible donc tous les matins vers 7h, donc une heure avant le lever du soleil. On la voit au-dessus de l'horizon sud-est. C'est magnifique. Et en ce moment, il y a le petit point rouge-orangé de la planète Mars qui s'approche du point très brillant de Jupiter. Et dans les jours qui viennent, ces deux points vont passer vraiment presque à touche-touche. Ça va être très spectaculaire. Alors, les conditions météo sont pas forcément excellentes, mais l'avantage, c'est que les planètes dans le ciel, ça se déplace pas très très vite. Donc, si vous ratez un ou deux matins, vous pouvez récupérer dans les matins suivants. Donc, ça, c'est toujours bien, quoi. Et ce qui est bien, c'est de se dire que 2018, ça va être l'année martienne, en quelque sorte. Et on voit le petit point de Mars qui semble ridicule à côté de Jupiter en ce moment. Et bien, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça sera l'inverse. Mars va devenir deux fois plus brillante que Jupiter parce qu'on va se rapprocher énormément de la planète Mars et du coup, on va avoir une opposition. La meilleure période pour observer la planète Mars et dans les mois du printemps, ça sera merveilleux dans les ciels.
Guillaume Canat, j'ai sous les yeux le ciel à l'œil nu, mois par mois et les plus beaux spectacles en 2018. C'est donc la 16e édition. Et alors, si je veux regarder nos étoiles, nos astres le soir, qu'est-ce que cela peut donner en ce moment ?
On a plein de très très belles étoiles. L'avantage, c'est qu'on a des étoiles très brillantes. Alors, on a le ciel d'hiver qui est en train de se lever, la nébuleuse d'Orion, la constellation d'Orion, la constellation des Gémeaux, du Taureau, les Pléiades. Tout ça, ça se trouve au-dessus de l'horizon sud-est, on va dire le soir en début de soirée, quoi, vers 8h, 8h30. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a encore une partie du ciel, on appelle nous le ciel d'automne, c'est-à-dire la constellation d'Andromède, de Pégase. Et ça, ça se trouve encore dans le haut du ciel, au zénith.
Alors, lorsque l'on parle d'Andromède, pardonnez-moi, ça veut dire qu'on est déjà dans une autre galaxie, on n'est plus dans notre galaxie ?
Andromède, c'est la constellation. Alors, la constellation, c'est des étoiles de notre galaxie.
Voilà,
qu'on voit à l'œil nu. Mais dans Andromède, dans la constellation d'Andromède, il y a un petit objet qui est tout à fait flou, nébuleux, qu'on arrive à voir à l'œil nu quand on est un peu éloigné des lumières urbaines. Hein. Mais ça, c'est une galaxie. Et on s'en est aperçu, bon, il y a un peu plus d'un siècle seulement que c'était une galaxie. Avant, on pensait que c'était... On appelait ça nébuleuse. Mais bon, depuis le début du XXe siècle, on appelle ça la galaxie d'Andromède. Et en fait, c'est une autre galaxie comme la galaxie de la Voie lactée.
Voilà, donc mais là, on est au-delà donc de la Voie lactée.
Ah oui, là, on est à 2 millions d'années-lumière, un peu plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Donc,
parce que lorsque l'on regarde ces étoiles actuellement, Guillaume Canat, on peut se dire qu'elles sont à combien de millions d'années ?
Alors, elles sont à, on va dire, 2,4 millions d'années dans le passé. C'est-à-dire que la lumière que l'on reçoit des étoiles de la galaxie d'Andromède en ce moment, quand on regarde le ciel ces soirs-ci, eh bien, c'est une lumière qui est partie quand l'homme émergeait à peine sur la planète Terre. Et il lui a fallu 2,4 millions d'années pour arriver jusqu'à nous, jusqu'à nos rétines ce soir.
Alors Guillaume Canat, on va quand même terminer aussi par une bonne nouvelle, parce que ce sont donc les vœux, c'est vous qui ouvrez, on va dire, ce bal des vœux dans cette émission, dans ce CO2 Mon Amour. Parlons quand même de la pollution lumineuse. D'abord, rendons hommage à l'Association pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui fait un sacré boulot donc en France. Mais on a aussi une bonne nouvelle dans ce domaine.
Mes vœux pour l'année 2018, ça va être que la région qui m'est chère, hein, la région des Cévennes, et notamment le Parc National des Cévennes, reçoivent un label très très prisé qui est le label de réserve internationale de ciel étoilé. Il faut savoir que sur la planète, il n'y a qu'à l'heure actuelle que 12 réserves internationales de ciel étoilé. Il y en a une en France, autour de l'observatoire du Pic du Midi, depuis déjà quelques années. Et normalement, dans les mois qui viennent, il devrait y en avoir une deuxième, donc dans le Parc National des Cévennes, puisque le dossier est en cours d'instruction au niveau de l'organisme américain qui décerne ces labels. Et a priori, les retours qu'il y a sur le dossier, pour le moment, sont tout à fait favorables, puisque les Cévennes, depuis déjà de nombreuses années, luttent pour la protection du ciel nocturne, changent leurs lampadaires, acquièrent des lampadaires qui éclairent beaucoup moins le ciel, qui éclairent mieux le sol, en mettent beaucoup moins. Enfin bon, il y a vraiment une politique de révision de notre éclairage nocturne qui permet, quand on est dans les Cévennes, d'avoir encore un ciel d'une qualité exceptionnelle.
Et puis, puisque ces régions sont réunies maintenant sous le label Occitanie, c'est la même région qui aura donc ces deux réserves.
Voilà. Oui, ça prouve bien que on a la chance dans notre petit pays d'avoir une région dans laquelle le ciel est encore vraiment bien visible. Alors naturellement, il faut compter avec la météo, mais quand la météo est bonne, on a encore un très très beau ciel en Occitanie.
Terminons juste par une petite étoile que vous aimez particulièrement en ce moment sous ce ciel de janvier.
Sirius. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel et on la voit se lever vers 8h30, 9h. On la voit se lever vers l'horizon sud-est et on a l'impression qu'elle clignote tellement elle est brillante avec la turbulence atmosphérique. On a l'impression que son éclat bouge en permanence, elle scintille très vivement et on a même l'impression que sa couleur change. Mais c'est vraiment l'une des étoiles les plus proches de nous dans la galaxie. Hein, elle est à seulement 8 années-lumière. Hein, vous voyez, c'est rien du tout par rapport à la galaxie d'Andromède dont on parlait tout à l'heure. Et elle est plus brillante intrinsèquement que le Soleil. Du coup, quand on la voit dans notre ciel, c'est vraiment un astre éblouissant.
Je vous renvoie à cet ouvrage, Le ciel à l'œil nu, mois par mois et les plus beaux spectacles en 2018, signé Guillaume Canat. Merci beaucoup Guillaume, et à très bientôt.
Merci Denis, au revoir.
Alors c'était nos premiers vœux donc étoilés, et donc à suivre les vœux aussi symbiotiques avec Isabelle Delannoy, vous allez découvrir cela, avec Vincent Munier, naturaliste et photographe, et ceux aussi de Charlevoix. Curtis Harding sur France Inter dans CO2, mon amour, donc avec une émission de vœux choisie par Muriel Pérez, mais bien sûr aussi notre programmatrice. Donc émission de vœux, vous l'avez compris. Et nous avons avec nous, avec grand plaisir, Isabelle Delannoy. Bonjour Isabelle Delannoy.
Bonjour Denis.
Alors Isabelle Delannoy, vous êtes une femme qui avait fait d'abord des études d'ingénieur et puis vous êtes, on va dire aussi écologue. Et vous avez aussi créé l'agence Do Green sur l'économie symbiotique. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que l'économie symbiotique? Donc avant de nous faire des vœux d'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société, c'est un ouvrage qui est sorti d'ailleurs aux éditions Actes Sud, cette économie symbiotique. Isabelle Delannoy, qu'est-ce que c'est?
C'est une économie qui régénère en fait ses facteurs de production. C'est-à-dire que parce que vous produisez, vous régénérez ce qui vous permet de produire. On passe d'une économie extractive où on prélève la matière, j'extrais, je transforme, je consomme, je jette, à une économie où, au contraire, vous régénérez la matière, vous régénérez les écosystèmes vivants, vous régénérez les liens sociaux.
Il y a différence avec l'économie circulaire, parce que c'est un peu ça aussi.
Alors, l'économie circulaire fait partie de cet ensemble d'économies, en fait. Ce que j'ai fait, moi, j'ai vraiment eu le sentiment juste de ranger la chambre. C'est-à-dire qu'on a un tas de nouveaux modèles qui sont apparus ces 50 dernières années, ou qui sont réapparus, parce que l'économie circulaire, on ne peut pas dire que c'est nouveau.
Non.
Et qui sont incroyablement cohérents, alors qu'ils sont apparus de façon non concertée. C'est l'économie collaborative, c'est l'économie du partage, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est les monnaies complémentaires, mais aussi l'économie de l'Internet, l'économie du pair à pair, l'économie... Et puis tous ces nouveaux mouvements de productifs, de la permaculture, l'ingénierie écologique dans les villes, par exemple. Vous voyez quand, au lieu d'avoir une station d'épuration en béton, vous avez des plantes, des écosystèmes qui sont implantés et qui est pur, vos eaux usées, c'est les toits végétalisés, c'est l'agriculture urbaine.
Ce qui se faisait d'ailleurs depuis très souvent dans les campagnes, mais qui ne se faisait pas forcément non plus dans les villes.
Exactement.
Hein. Oui. La ville de Rochefort, je tiens à le dire, qui est quand même une ville moyenne, avait ça depuis longtemps.
Mais oui, on a des exemples partout qui ont émergé dans le monde entier. Et en fait, quand on prend un peu de recul, on dit, mais en fait, ils fonctionnent tous de la même façon. Et donc, c'est ça que j'ai mis en exergue. Et j'ai montré aussi que ce qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a des relations systématiques entre tous ces domaines. Et donc, on a bien des lois qui se dégagent.
Systématique et systémique.
Et ça forme une économie complète. Voilà.
Ouais. Bon, écoutez, on va poursuivre ce voyage aussi donc, avec vous. Et puis, dans quelques instants, ça va être les vœux de Robert Charlebois. Il est sur France Inter, 14h20. Nous partirons tout à l'heure à la neige avec Christian Couloumi. Nous rejoindrons aussi Cyril Dion et Vincent Munier. Mais là, tout de suite, ça va être Robert Charlebois, donc des vœux d'un chanteur venu du froid, qui a regardé aussi notre président de la République à la télévision.
Je pense que ce qu'il voulait dire, votre président Macron, est en train de perdre une bataille, ça veut dire qu'il faut, demain matin, quasiment, arrêter les émanations d'essence, parce que c'est une des grandes causes des cancers du poumon. Arrêter le diesel tout de suite. Et c'est irréaliste de penser que ça peut se faire tout de suite, mais quand on pense qu'en Chine, il meurt 35 000 personnes par jour. Et chaque fois qu'il y a un attentat où il y a 8 morts, ça fait les front pages des journaux, des nouvelles. Et de ça, 35 000 morts par jour en Chine qui crèvent de pollution et de poumons, personne n'en parle. C'est quand même énorme, immense. Et ce vaisseau qui se promène à 1800 km/h autour du Soleil, il est très abîmé. Mais je pense que si on réagit vite, c'est-à-dire cette année, et nous, le Canada, on pourrait produire des voitures électriques propres parce qu'on a de l'hydroélectricité qui est tout à fait non polluante, et on ne peut pas stocker ça. C'est pas comme du pétrole, on met pas ça dans... Ça tourne, c'est des turbines qui tournent. Donc, on pourrait vendre ça aux Américains, et eux aussi, déjà, s'ils avaient des voitures électriques. Parce que si on commence avec la Nouvelle-Angleterre, vendre ça à l'État de New York, au Massachusetts, au Vermont, eux vont se charger de le vendre au reste des Américains, et ça serait au moins balayé devant notre porte.
Et alors, lorsque l'on est justement un habitant du Québec, Québec plus particulièrement, mais enfin on va dire du Canada. C'est vrai que le réchauffement climatique, on en a quand même une perception tout à fait réelle.
Moi, quand j'étais petit, j'avais tellement hâte que ça arrive, le réchauffement climatique. Surtout rendu au mois mars-avril, quand on se voit encore une bordée de neige et tout. Alors là, évidemment que c'est là, puis qu'on voit des ours polaires qui commencent à crever de faim et tout ça, on s'aperçoit que c'est une chaîne qui tout est c'est beau les indépendances, mais tout est interdépendant sur cette planète, à commencer par le climat. Et c'est comme ça, c'est triste, il va se mettre à pleuvoir partout. En plus, si tous les glaciers fondent, ça va faire une masse d'eau douce qui va s'évaporer, qui va peut-être changer aussi le cours du Gulf Stream, parce que l'eau douce étant plus lourde que l'eau salée, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et il faut presser le bouton de panique, maintenant, sinon, la Terre, elle s'en fout de nous, Terre sera toujours là. Donc, on n'abîme pas, on dit, moi, je ne crois pas aux gens qu'il ne faut pas abîmer la planète Gaïa, puis les arbres sont ses cheveux. Non, la planète Gaïa, elle se fout de ses cheveux complètement, puis elle va continuer à tourner, ça fait 4 milliards d'années qu'elle tourne, elle est encore là pour 4 milliards d'années, mais c'est à nous qu'on fait mal, et c'est à nous qu'on fait... Et souvent, il y a des hypertrophies, on veut soulager la pollution dans Paris, on en cause... plus, parce qu'il y avait un courant jet au-dessus de la Seine qui faisait que les émanations s'en allaient, et maintenant ça reste collé dans Saint-Germain, dans tous les quartiers limitrophes de la Seine, et on a l'effet contraire de ce qu'on voulait, même si l'intention est très bonne.
Alors, qu'est-ce qui quand même vous rend assez optimiste, parce que ces sujets-là, ils n'étaient pas sur la table il y a encore, 20 ans, 10 ans pour certains, 5 ans encore pour d'autres, et ça commence à bouger, c'est pas pour autant que c'est gagné.
Non, mais c'est le marché du carbone, c'est quelque chose qui est tellement difficile et compliqué à expliquer aux gens. Ouais. On dit que c'est vrai que ça a baissé de 10%, mais c'est comme les indulgences à l'Église. Tu as le droit de faire des péchés, mais si tu as des indulgences, tu vas aller au ciel quand même. Et là, le ciel, on le verra même plus. On pourra pas y aller.
Bon, ben voilà. Sinon, le petit coin de nature quand même de Robert Charlebois au Québec, qu'est-ce que ce serait?
Eh bien, moi, il y a certaines rivières à truites que je connais. Il y a des petites rivières à saumon, il y a des petits lacs. Je vous donnerai pas mes secrets de pêche, mais il y a encore de la place au Québec. Sauf que les Chinois, qui sont très sympathiques, ils sont bienvenus chez nous, mais ils commencent à acheter tout. Ils achètent des fermes, des montagnes, des remontes-pentes, des terres agricoles. Et je veux bien les accueillir, mais... j'aimerais bien qu'on reste propriétaire de notre petit Québec.
Un grand merci, Robert. Puis bonne année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Bonne année.
Belle journée, d'abord.
Oui, mais tout ce qui ne s'achète pas dans les magasins, c'est-à-dire la santé, l'amour, l'imagination. Voilà.
Sur parti sur Québec Air, Transworld, London, Eastern, Western, puis Pan-American.
CO2, mon amour. Je sais plus. Avec Denis Chessot sur France Inter.
Eh ben, ça nous va pas mal, ça, comme vœu de Charlebois, avec des vœux avec tout ce qui ne s'achète pas. On va rester dans le froid, mais alors ça va être notre froid à nous. Ah bah oui, parce que là, j'ai rencontré un homme des Vosges avec Vincent Munier, qui est photographe animalier et naturaliste. Un homme qui a merveilleusement esthétisé aussi le blanc sur différents continents. Et alors, vous imaginez, vous avez les chaumes des Vosges au-dessus de nos têtes, on est dans la nuit. Là, on les devine. Et donc, quelques vœux. Bonjour Vincent Munier, quelques vœux naturalistes.
Bonjour Denis. Mon vœu le plus cher, je pense que ce serait qu'on redevienne un peu plus en harmonie avec cette nature, qu'on soit vraiment en connexion avec elle, qu'on redevienne un peu plus animal et peut-être un petit peu moins homme, égocentrique.
Alors comment on peut s'y prendre?
Moi je pense, en méditation c'est excellent, moi je pense que le bonheur il est là, il est dans les choses toutes simples. Rien que le fait de marcher dans cette neige qui croustille, dans ces vieux sapins, il n'y a rien de tel. C'est une thérapie, c'est mon médicament.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces Vosges natales pour vous? Là on n'est pas très très loin d'Épinal, donc on a ces montagnes qui ne sont pas très hautes, 1200 mètres d'altitude à peu près, mais...
Ce qui me plaît énormément ici, ce qui me fait du bien, c'est de marcher dans ces vieilles forêts. Et c'est vrai que ça fait un bien fou. Dans ces vieilles forêts, un peu à haute naturalité, comme on dit, avec ces vieux sapins. On a encore la chance de pouvoir un peu observer le grand tétras, et ça, ça serait un peu, un peu notre souhait de pouvoir préserver cette espèce qui est vraiment synonyme de ces forêts pleines de mystères.
Vincent Meunier, quand même un autre animal qui vous est extrêmement cher, d'ailleurs aussi à Sylvain Tesson, on va dire bientôt, mais vous en saurez plus, c'est la panthère des neiges. Alors peut-être aussi donc voir de nouveau cette panthère des neiges pour vous en 2018.
Et oui, donc là je suis un peu dans les préparatifs pour retourner dans ces canyons, dans la vallée du Mekong, et essayer de tenter de la voir. Encore une fois, c'est un prétexte, hein, toujours.
Ouais.
Essayer d'aller sur ses traces et de se sentir un peu panthère, de se mettre à sa place. Et donc là, je me réjouis d'aller à l'affût dans ces grottes et de rester quelques jours. J'ai pu l'observer à plusieurs reprises. Ouais. Et c'est toujours des moments d'une grande intensité face à ce félin qui est, à mon avis, le roi du camouflage.
Et on change d'altitude, là, on frôle les 5000 quand même.
Voilà, on va avoir un petit camp de base à 4800 mètres et ensuite on va rayonner et aller se mettre à l'affût dans des petites grottes que j'ai repérées. Puis il y a la panthère, mais il y a aussi les chamanoules, il y a les chirous, il y a les kiang, c'est toutes des espèces incroyables qui arrivent à survivre dans ces climats qui sont complètement rudes. Ouais, non, je me réjouis.
Merci à vous, Vincent Meunier, donc photographe. À suivre, Cyril Dion, que vous connaissez avec le film Demain et aussi donc les Colibris. Il y aura Christian Couloumi et aussi Isabelle Delannoy.
Vous êtes si jolie quand vous passez le soir à l'angle de ma rue, parfumées et fleuries avec un ruban noir, toutes de bleu vêtues. Quand je vous vois passer, j'imagine parfois des choses insensées, des rendez-vous secrets au fond d'un jardin froid, des serments murmurés. Le soir dans votre lit, je vous devine nu, un roman à la main. Monsieur Audiberti vous parle d'inconnus, vous êtes déjà loin. Vos rêves cette nuit, de quoi parleront-ils, le soleil fut si lourd. Demain c'est samedi, je guetterai fébrile votre sortie du cours. Dimanche sera gris, je ne vous verrai pas, pas avant lundi soir. Où serez-vous parti, qui vous tiendra le bras, que vous fera-t-on croire. Je crois que je vous dois de vous faire un aveu, petite, écoutez-moi. C'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat.
Eh bien là, nous étions dans les Hauts-de-Seine, hein. Donc après, avant les Alpes, après les Vosges et le Québec, c'était Fontenay-aux-Roses de Le Forestier. En 2007, il crée avec Pierre Rabhi le mouvement des Colibris, il cofonde la revue Kaizen, il co-réalise en 2005 avec Mélanie Norand ce Demain, et donc énorme succès, il vient de sortir Imago aux éditions Actes Sud. C'est donc Cyril Dion que j'ai pu rencontrer tout à fait tranquillement, et donc avec les vœux de Cyril Dion. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour Denis. On peut à la fois souhaiter que l'année qui vient soit plus constructive que l'année passée. On a quand même vécu à la fois des catastrophes naturelles, à la fois l'élection de Donald Trump. Donc on aurait besoin d'avoir une année qui nous donne un contexte dans lequel on puisse agir vraiment, oui. dans lequel on puisse construire quelque chose. On me demande très souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en essayant de se cantonner à des petits gestes. Et très souvent je dis, mais pour moi, la véritable révolution, c'est de changer ce qu'on fait toute la journée. On passe quand même 8 heures, entre 7 et 8 heures de notre journée, à déployer toute notre énergie et toute notre créativité pour faire une activité professionnelle. Et cette activité-là, où on peut choisir qu'elle va construire une société dans laquelle on a envie de vivre, vraiment, ou la subir et faire en sorte que ce métier soit simplement quelque chose qui nous rapporte un peu d'argent pour pouvoir survivre. Et ce que je dis de temps en temps, qui fait rigoler les gens, c'est si on se cantonne simplement à des petits gestes et qu'on continue à faire un métier qui n'a pas de sens pour nous et qui va à l'inverse de nos valeurs, c'est un peu je travaille chez Monsanto mais j'y vais en vélo.
C'est ça.
Voilà. Ouais. Donc moi, vraiment, ce que je peux vous souhaiter, c'est en 2018 de trouver la chose pour laquelle vous avez vraiment du talent, la chose qui vous plaît, qui vous donne envie de vous lever chaque matin et de le faire. Parce qu'assez miraculeusement, quand quelqu'un fait ce qu'il aime, et pour lequel il a vraiment du talent, il change la vie des autres. On a besoin que chaque personne soit au bon endroit. C'est de la permaculture, en fait. C'est de la permaculture sociétale.
Et là, en fait, ça pose aussi le problème de la cohérence personnelle, qui n'est jamais très simple et qui est peut-être le travail aussi de toute une vie. Mais alors, comment reprendre peut-être aussi une part d'autonomie avec un système où on a une carte bleue, où on a des crédits, où on est obligé d'aller travailler en voiture, etc. Et donc, en fait, qui ne fait que continuer à faire marcher ce système.
Mais c'est un vrai sujet. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément appris au contact de Pierre Rabhi, qui commençait par le dire avec l'alimentation, en disant « Mais à partir du moment où tu es dépendant d'un système qui te nourrit, et que ce système-là, il est tenu par quelques grandes multinationales, par exemple, en France, c'est 92% des biens qui passent par 5 centrales d'achat, donc ils choisissent...
4 maintenant, mais ils sont encore plus concentrés.
Maintenant 4, effectivement, ouais. Donc là, on peut se dire qu'ils ont vraiment un pouvoir totalement démesuré sur notre capacité à nous nourrir, mais effectivement, si on élargit la réflexion, c'est valable pour tout. À partir du moment où on a un crédit qu'il faut rembourser chaque mois pour payer sa maison, bah, il faut avoir un salaire. Et donc, s'il faut avoir un salaire, bah, il faut trouver, en gros, quelqu'un qui peut nous embaucher, quitte à faire quelque chose qui nous plaît pas vraiment. Si on est dans une perspective d'aller travailler très très loin de chez nous et qu'on réfléchit pas au système, bah, là aussi, on est dépendant peut-être de devoir prendre notre voiture tous les jours. Donc, c'est une réflexion à la fois passionnante de se dire comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça soit pas, en gros, une espèce d'énorme soumission, de devoir subir tout un tas de choses parce qu'on n'a pas fait attention, mais là encore, comme la permaculture, de faire du design de sa vie au départ et de pouvoir organiser les choses de façon à pouvoir aller en vélo, de façon à pouvoir avoir pas loin des producteurs qui font de la nourriture, de façon à pouvoir faire un métier qui nous plaît, etc., etc.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi ce besoin que l'on a de faire du silence en nous ? Parce qu'on est quand même extrêmement agité, on est dans l'immédiateté, on attend des réponses en permanence. Et tout ceci, en fait, ne fait que hachurer un fil de vie ?
Ah si, infiniment. Enfin, là, moi, je me souhaite à moi-même et je souhaite à tout le monde de pouvoir, par exemple, méditer 10 minutes par jour, vraiment. Enfin, moi, je connais un petit peu Christophe André et puis j'ai commencé à pratiquer la méditation il y a une quinzaine d'années, avec des retraites, notamment dans le désert, dans le Sahara, 5 jours de méditation de suite. Et ce que me disait la personne qui était l'enseignante avec laquelle j'ai fait ça, c'est des douches de cerveau. C'est-à-dire qu'on a bien compris maintenant qu'on a besoin d'avoir une hygiène corporelle. À la fois, on a besoin de se laver, mais on a aussi besoin de faire de l'exercice physique pour garder une sorte d'équilibre. Et ben notre cerveau, c'est la même chose. On est constamment abreuvé d'informations dans tous les sens, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec les écrans, sous toutes les formes possibles et imaginables. Donc à un moment, si on ne prend pas des douches de cerveau, si on n'est pas capable de nettoyer notre esprit...
Qui peut passer par la marche, qui peut passer par la contemplation, qui peut passer par la lecture.
Absolument. Quand je dis 10 minutes de méditation, c'est être capable de débrancher le cerveau, de faire le silence. Moi, je sais qu'une des choses qui marche le mieux, c'est ce qu'on appelle des marches un peu méditatives dans les bois. Moi, je marche dans la forêt. Ça peut effectivement aussi passer par quelque chose qui nous concentre. Il y a un certain nombre d'activités qu'on fait, notamment avec nos mains, qui nous permettent de débrancher le cerveau. Il y a un philosophe qui est philosophe et réparateur de motos, même si, bon, les motos, c'est contestable, mais qui s'appelle Matthew Crawford, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle « Éloge du carburateur » et « Contact », où il fait l'éloge de l'activité manuelle, en disant, quand on fait des choses avec nos mains, non seulement on reprend contact avec le monde et avec la réalité, mais ça nous permet aussi de débrancher le cerveau et de redescendre dans notre corps. Donc ça, c'est super, de cuisiner, de jardiner, de réparer, réparer aussi pour éviter d'acheter tout le temps des nouveaux trucs. Là, moi, je suis parrain d'une campagne de zéro déchet pour 2018. Ça, c'est une de mes bonnes résolutions de 2018. La campagne s'appelle « Rien de neuf ou presque ». À chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, chercher une alternative au neuf, dans notamment les choses de seconde main ou dans la réparation. Et c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, j'ai commencé à me pencher sur la question parce que je me suis dit « Bon, bah, il va falloir qu'en 2018, j'assure quand même un peu ». Et le nombre d'objets, de vêtements, de meubles, de seconde main qui circulent dans cette société de consommation dont l'opulence est démesurée, c'est absolument délirant. Des choses qui sont neuves, quasiment neuves, qui peuvent passer finalement de la main à la main et nous éviter de redétruire des ressources.
Dans quel monde vivront nos enfants dans 40 ans ? Léo est né il y a 6 mois, comme des centaines de milliers d'enfants dans le monde. Et jamais la situation écologique n'a été aussi grave. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à nos enfants ? Qu'il n'y a aucune solution ? C'est ça qu'on va leur dire ?
Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre, sans quoi nous courons à la catastrophe. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. On s'acharne à répéter, mais ça ne sert à rien.
D'ailleurs, je tiens à vous signaler que la semaine prochaine, avec Aline Gubry de Zéro Plastique, Zéro Toxique et Flore Berlingen, directrice de Zéro Waste, Zéro Déchet, eh bien, nous évoquerons donc aussi ces sujets dont Cyril Dion est le parrain pour en tout cas cette opération. Alors, on a continué la conversation parce que les gens ressentent en conscience ou confusément donc ces dangers environnementaux et en même temps, il y a énormément d'appétence pour faire des choses avec une envie d'agir en allant plus loin évidemment que les gestes quotidiens qui sont nécessaires. Bon, on voit bien que le système frôle les limites avant de gripper. Donc, Cyril Dion, qu'est-ce que l'on constate avec cet élan actuel ?
Moi, j'ai jamais vu autant de personnes, effectivement, qui sont tout à fait conscientes du problème et qui ont envie de faire des choses. Et on l'a vu avec Demain. Là, on est en train de faire un 52 minutes pour France 2 qui va être diffusé au printemps, où on est allé filmer toutes les personnes qui ont fait des choses après avoir vu le film. Et c'est stupéfiant, le nombre de personnes qui témoignent en racontant que leur vie a changé. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave et tellement urgente, c'est-à-dire qu'on nous parle maintenant d'une possibilité de début d'effondrement, en tout cas de situation très 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 compliquée à gérer mondialement aux alentours de 2030, qu'il faut que tout ce qu'on fait s'inscrive dans une stratégie plus large que nous-mêmes. Ça suffit pas simplement de, entre guillemets, soulager notre conscience en se disant « bon ben, je prends un peu mon vélo, je mange un peu moins de viande ». On a besoin, notamment dans les endroits où on vit, dans les endroits où on travaille, de construire des stratégies de, à la fois de transformation, mais aussi de résilience. De voir comment les endroits où on habite peuvent devenir de plus en plus autonomes, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue énergétique. Comment on peut développer de l'activité économique là où on est. Comment on peut diminuer notre consommation d'énergie, diminuer notre consommation de ressources et donc voir comment on peut aller rechercher de la matière première par le recyclage, par l'économie circulaire, etc., etc. Mais aussi, politiquement, se structurer pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de décisions qui vont accélérer ces processus. Pour 2018, mais comme pour les années suivantes, moi, un de mes vœux très chers, c'est qu'on se remette à faire de la politique, tous les uns et les autres. Pas simplement en faisant de la politique politicienne, mais en s'organisant collectivement pour déterminer l'orientation de la société, l'orientation de la cité, des endroits où on vit, et qu'on arrête de se dire « bon bah, il y a quelqu'un qui s'en occupe pour moi ».
Qu'est-ce qui vous donne profondément, je dirais, envie, et peut-être se quitter avec une image que, je sais pas, vous avez peut-être glanée chez vous, ici, ou bien peut-être lors de vos dernières balades en forêt ou ailleurs ?
Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est l'enthousiasme. Dans les années qui viennent, si effectivement on a besoin de beaucoup de personnes qui se mobilisent, qui vont aller très vite et qui seront très efficaces, on a besoin qu'elles aient de l'enthousiasme. L'enthousiasme, théoriquement, c'est ce qui fait que quand vous avez fait quelque chose, vous avez plus d'énergie à la fin que quand vous avez commencé. Ouais. Il faut trouver ça. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin ? Si vous aviez 20 millions d'euros sur votre compte en banque et que vous aviez plus jamais besoin de travailler, vous feriez quoi de vos journées ? Et ça, ça me donne de l'énergie. Parce que si je commence à me concentrer sur l'état du monde, honnêtement, il faudrait être presque un peu demeuré pour être optimiste aujourd'hui. On ne peut plus être optimiste. Moi, j'aime bien la phrase d'Hubert Reeves qui dit « Quand on me demande si je suis optimiste et pessimiste, je réponds « Je suis déterminé ». Il faut qu'on soit déterminé à faire plein de choses, mais si on le fait sur un mode sacrificiel, on ne trouvera pas l'énergie. Ça. Donc, comment est-ce qu'on trouve l'enthousiasme ? Je reviens à mon histoire de permaculture. Comment est-ce qu'on se trouve être la bonne personne au bon endroit qui fait la chose qui nous rend heureux et qui, par ricochet, va engager une transformation du monde ?
Et c'est peut-être, Cyril, ce que vous appelez, en fait, la récréation de la société.
C'est ça. quand est-ce que vous avez le plus d'énergie chez les gens? Et ça, c'est assez extraordinaire. Moi qui organise des congrès, notamment des congrès israélo-palestiniens, des congrès d'imams et de rabbins pour la paix et tout ça, j'utilisais une méthode qui s'appelle l'open space technology. Et en fait, c'est organiser une récréation géante. C'est-à-dire, on dit aux gens, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous allez parler de ce qui vous passionne le plus. Vous allez organiser vous-même les ateliers. Vous allez proposer vous-même les plans d'action. Parce que l'inventeur de cette technique s'est rendu compte que quand il organisait des grands congrès hyper bien préparés avec des ordres du jour, les meilleurs speakers, etc., les gens sortaient et disaient, c'était bien, c'était vraiment très intéressant et tout ça. Mais ce qu'on a préféré, c'était les pauses. Parce que pendant les pauses, on pouvait rencontrer les gens qu'on voulait, on pouvait parler des choses qu'on voulait faire avancer, on pouvait mettre en œuvre des projets communs. Et donc il s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer des congrès qui soient des gigantesques pauses? Et quand vous êtes dans une cour de récréation, c'est exactement la même chose. Les enfants s'agrègent par affinité, par passion, et libèrent une énergie considérable. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir cette organisation récréative dans la société? Ça m'intéresse beaucoup.
Bon, je vous souhaite une très belle année, hein, donc à vous et à vos proches, et peut-être une petite image de nature qui vous plaît.
En ce moment, je suis en train de réfléchir à un film qui se passe dans un arbre. Et moi, il n'y a rien qui me plaît plus qu'un arbre, et plus qu'une image, c'est plus une sensation, mais si vous n'avez jamais fait de ce que les anglo-saxons appellent de tree hugging, c'est-à-dire de prendre un arbre dans vos bras, et bien je pense que 2018 peut être un bon moyen pour commencer.
Isabelle Delannoy, donc avec nous, merci beaucoup. Hein, Cyril Lion, que vous connaissez bien, parce que c'est aussi le directeur donc, chez Actes Sud de la collection Colibri, dans laquelle donc, vous éditez l'économie symbiotique, Isabelle Delannoy. Juste un tout petit mot, peut-être une petite remarque sur ce que vous avez entendu de Cyril, que vous connaissez.
J'aime beaucoup ce que dit Cyril, parce qu'il exprime exactement ce que les acteurs du changement ont envie. Et c'est-à-dire une grande conscience d'un effondrement qui est en cours, mais en même temps une vraie joie, un vrai enthousiasme et au quotidien. Et un bonheur à aller au travail, un bonheur à se rencontrer. Voilà, c'est une autre vie, il l'exprime tellement bien.
France Inter, il est 14h45. Donc, vœux à volonté dans ces hauts de mon amour, écologie, environnement, société. Et là, on va partir dans les Hautes-Alpes avec les vœux, on va dire, de la montagne avec Christian Couloumi. Christian Couloumi, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes notre monsieur montagne hein, depuis très longtemps. On est là chez vous dans ces Hautes-Alpes avec le massif des Écrins qui est derrière et puis le lac qui est tout en bas, suite Savine là, qui est bien gelé mais qui a quand même son œil encore un petit peu bleu. Et surtout on est ouaté là. C'est-à-dire que c'est le royaume du silence à cette époque de l'année. Hein, à plus de 1500 mètres d'altitude.
Oui, c'est une année, j'allais dire particulière, c'est une erreur. C'est une année qui devrait être normale, puisque la neige est là depuis un bon moment. Ouais. On marche dedans d'ailleurs, faites attention, vous mettez les pieds, Denis. Et elle nous permet de passer une fin d'année, une transition vers l'année suivante, dans la ouate. Donc c'est très doux, c'est très sympa.
Qu'est-ce que l'on peut espérer pour cette nature?
Eh bien, qu'elle se remette un petit peu en ordre. Bon, il suffit pas de le dire, hein. Il y a plein de choses à faire sans doute, mais en tout cas, on observe là pour le moment que ça va bien. Alors, comme on a un tempérament optimiste tous les deux, on va penser que c'est bien et que toutes les bestioles qui sont enfouies sous la neige, qui cavalent un peu partout dessus, enfin cavaler, qui ont du mal à se déplacer, qui cherchent à manger, vont s'en sortir, vont arriver au printemps. Les choses sont comme ça. Ici, elles sont dures, mais les animaux y sont habitués. Ouais. Et puis pour la végétation, c'est bien aussi. Puis c'est un stock d'eau. La neige qui est là, ça sera de l'eau plus tard et on a besoin d'eau. On a vu un automne l'an dernier qui était un peu difficile, un été aussi très sec. Donc c'est très bien cette neige. Et puis pour moi, vous savez, la transition, elle est faite, l'hiver est terminé. En fait, le jour de l'hiver, le 21 décembre, pour moi, l'hiver est terminé. Parce que la lumière commence à revenir, les journées se rallongent. Et on va vers quelque chose de neuf, de nouveau. C'est pas au printemps, c'est dès maintenant que les choses recommencent. Alors évidemment, tout le monde est un petit peu engourdi, ça va durer un petit moment quand même, hein, avant de s'ébrouiller pour sortir un peu comme un ours de sa caverne.
Alors qu'est-ce qui se passe justement là, sous la neige? Qu'est-ce que l'on a? On a nos marmottes qui évidemment sont dans des pierriers.
Ah bah, elles ont éteint la télé, elles ont tout éteint, là c'est fini, là, rideau. Mais il y a des bestioles qui vivent. Et pourquoi ne pas dire que les petits campagnols, vous savez, ce sont des rongeurs avec une queue courte, ce qui les distingue des souris et des rats, qu'on a que plutôt longue. Et ces bestioles-là, elles continuent de vivre sous la neige. Là où on est, il y a des mondes qui s'agitent. Underground, ouais, alors ouais. Under Snow plutôt. Et il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ces bestioles-là, c'est l'hermine, qui est toute blanche, avec le bout de la queue noire, avec la petite truffe du nez également noire.
C'est-à-dire comme le lièvre variable, elle a changé de costume hein, pour l'hiver, celle-là.
Oui, celle-là, elle était rhabillée pour l'hiver, comme on peut dire.
C'est rhabillée en blanc.
Voilà, en blanc. Bah, ça lui sert un peu à se camoufler, ah, oui. Mais elle, aussi elle se met sous la neige, dessus. C'est un diable bondissant qui est totalement imprévisible. Ouais. Et puis qui n'est pas tellement farouche finalement, hein, et qui peut venir tout près de nous. Et ce qu'elle préfère, c'est les campagnols. Alors qu'elle va aller après dans les galeries, là-bas sous la neige, et s'en repaître jusqu'au printemps.
Alors on a nos oiseaux aussi, vos chers aigles, parce qu'on là, on est dans cette... Dans cette vallée donc assez haute, au-dessus de Crévoux, et bon, c'est aussi des coins où vous avez vos copains.
Oui, ils sont là autour de nous, un petit peu partout, on ne les voit pas trop en ce moment. Il faut que l'année redémarre, et bientôt ils vont se manifester dans le ciel, sur leur territoire, pour commencer une nouvelle année, une nouvelle reproduction, qui pour un moment est très important, qui prend beaucoup de temps. Mmh. Mais là, en ce moment, les conditions aérologiques, quand il neige, ben, ils ont beaucoup de mal à voler, hein, ce sont des planeurs. Donc plusieurs jours de neige, comme on a eu là, pendant ces vacances de Noël et puis ce nouvel an, ben, ils sont restés perchés, mais ils sont habitués à jeûner de manière assez dure et longue.
Ah oui.
Et puis, oui, oui. Et puis ils trouveront bien une carcasse, parce qu'il y a des bestioles qui vont mourir. Et comme la vie est bien faite... Et le malheur des uns fait le bonheur des autres, ou l'inverse. Le printemps va arriver. Et les ongulés, là, les chamois, les chevreuils, tout ça, vont arriver complètement épuisés. Il va y avoir de la mortalité, les avalanches, et puis la difficulté de la vie là-haut. Et ben, eux, ils vont se mettre à manger là-bas au moment où ils en ont le plus besoin, puisqu'ils vont faire les petits au printemps. Donc, là, on a le premier pied, on est au fond de la piscine, on tape le pied,
voilà.
Et on repart vers la lumière, et c'est parti.
Et puis là, nos chers mélèzes, bah eux, ils suivent les feuillus, c'est-à-dire que là, ils sont dénudés, hein, contrairement donc aux sapins, aux épicéas.
Oui, alors ce qui fait dire aux gens qui ne connaissent pas la montagne, qui viennent chez nous, qu'est-ce que c'est que ces forêts qui sont mortes? Non, elles ne sont pas mortes, elles sont simplement en sommeil, comme les feuillus d'ailleurs. Hein, on ne se préoccupe pas des feuillus, je trouve que c'est normal que les feuilles soient tombées. Puis vos chers pinsimbros, évidemment.
Ah oui,
mais
ça.
Eux, il y a... À part dans le bois des ailes, par exemple, ou dans les vraies forêts de cimbros, les petits cimbros sont sous la neige encore. Hein. Il y a plus d'un mètre de neige maintenant. Et les arbres, ouais, ils attendent le printemps eux aussi, mais c'est très bien pour eux la neige. Comme ça, ça ne va pas geler profond. Alors, les marmottes aussi, d'ailleurs.
Pourquoi cette nature est nécessaire?
Bah, nous, on en fait partie déjà.
Ouais.
Donc si on enlève des petits morceaux, je suis pas un grand scientifique, hein, mais les scientifiques le savent très bien, la biodiversité, c'est un château de cartes quand même.
Alors, il suffit d'enlever un grand pile vert avec plein de mailles. Quoi,
voilà, on tire dessus, puis ça s'effiloche. Et finalement, les choses sont en place comme elles sont là. Elles sont parfois dures, mais elles sont nécessaires. Et nous, on contribue, pour ce qui nous concerne, à nous intéresser aux grands rapaces. Bon, par exemple, les vautours, en ce moment, sont partis. Ils sont là-bas vers l'extérieur. Ils se nourrissent de charognes en hiver, ben, toute l'année. Et puis ici, ben, il reste que les costauds, quoi. Et puis tout en haut, là-haut, ben, vous les connaissez, on les a vus ensemble. Ce sont les lagopèdes, ce sont les accenturiers alpins. Même le ticodrome, qui vit l'été très haut, ben, il est descendu dans la vallée. Il a été vu dans les villages actuellement. Donc, voilà.
Et puis donc on va redescendre, et puis alors on a ce soleil, mais avec des ombres qui sont longues cette fois-ci.
Mais oui, le soleil est bas, donc il se projette sur nous, sur les arbres, et ses silhouettes s'allongent sur la neige comme ça, de manière démesurée. Et quand le soleil reviendra cet été, ben, il y aura pratiquement plus d'ombre, elle sera entre nos pieds, hein, ou au pied des arbres. Les ombres s'ajoutent au paysage un petit peu en noir et blanc l'hiver.
Hein.
Et on souhaite à tous nos amis qui vivent en ville, parce qu'ils ne bénéficient pas toujours de cette beauté de la nature, on est là... Pour eux aussi, on pense à eux et venez dans les montagnes, ça vaut le coup. Venez voir la montagne pour la montagne.
Merci beaucoup, cher Christian Coloumi. À très bientôt. Hein.
Merci, Denis, à bientôt. Allez pas vous enliser, là.
Ouais, t'as raison. On a réussi. Ben si, mais bon, c'est... mais moins que vous.
Ouais, moins que vous,
ben oui.
Ah, il va cubler.
Ben, il va pas cubler. Il va tenir sur ses pattes. Mais il a une émission à faire, il va continuer les vœux. Tiens, allez. Christian Coloumi dans ses Hautes Alpes superbes, aussi président de l'association Envergure Alpine. Envergure Alpine, donc, il s'intéresse de très très près
au rapace. Je vous en ai déjà parlé et on en parlera encore, toujours avec nous, donc Isabelle Delannoy, l'économie symbiotique aux éditions Actes Sud, collection Domaine du Possible. Le regard que vous avez avec ce mot effondrement, Isabelle Delannoy, avant de passer donc à ses vœux.
Je pense qu'il faut être lucide. Il faut être lucide et des deux côtés. Oui, nous sommes dans un effondrement de la civilisation qu'on pourrait dire thermo-industrielle, ce qui est un mot compliqué, mais qui en gros repose sur l'extraction des ressources et les énergies fossiles. Et dont l'extraction dure, c'est d'une civilisation extractive qui a des millénaires d'histoire. Et donc voilà, là c'est en train de s'effondrer, il faut, c'est écologiquement, économiquement, socialement. La dépression, c'est devenu 30% des maladies des pays industrialisés. Le climat, on a, s'il n'est pas encore trop tard, on n'a vraiment que quelques années pour réagir. Économiquement, on voit la... C'est la débandade.
Alors, résilience.
Donc, voilà. Et donc, ça, voilà, il faut vraiment être conscient de ça. Par contre, ce serait ne pas être lucide que de voir, de ne pas voir ce qui est en train de naître en ce moment et qui a un dynamisme, un enthousiasme, comme disait Cyril, absolument formidable et qui naît des territoires.
Alors ça, c'est intéressant.
Ça qui est magique.
Sur les collectivités, c'est là que ça... Si on regarde en haut, on est un peu désespéré. Mais en revanche, si on regarde en bas, entre guillemets, la chose fonctionne, enfin déjà.
C'est, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'un changement n'est jamais venu du haut. Jamais. Dans l'histoire, il n'est jamais venu du haut. Et on continue à braquer les projecteurs en se disant « mais ils ne font rien ». Et donc on est désespéré. Et par contre, quand on regarde le bas, les collectivités, les associations, les entrepreneurs, ça fourmille. Moi, je travaille avec des territoires ou avec des entreprises, mais il n'y a qu'à secouer le cocotier. Les gens qui sont passés à ces nouvelles logiques ou qui veulent y passer, il y en a maintenant, mais des centaines sur un territoire. C'est vraiment... il y a une émergence. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que votre maire... ou votre président d'agglo, c'est beaucoup plus facile de le contacter
que le président de la
République.
Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Écoutez, vous reviendrez, Isabelle, dans cette émission qui est évidemment un petit peu raccourcie avec l'actualité. Donc l'économie symbiotique, domaine du possible, donc avec ses vœux symbiotiques de votre part. Il est 14h56. Mais il nous reste encore des vœux. Bah oui, ça va être ceux de Philippe Guéluc. Bah vous le connaissez, bien évidemment. Donc le chat, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter donc à cette belle terre, Philippe Guéluc?
Mais on peut lui souhaiter tout le meilleur pour 2018, évidemment, hein, comme on fait d'habitude. Non, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pratiquement à cette pauvre planète? Mais c'est que ces connards de types qui font du pognon sur le pognon, qui confisquent toutes les matières premières, qu'ils crèvent dans leur connerie. C'est ça que je souhaite à la planète. C'est qu'enfin, on accepte que prennent les manettes des gens éclairés, des gens généreux, des gens qui pensent aux autres et des gens qui pensent aux enfants. Et je citerai ce proverbe chinois qui dit « La planète est un cadeau que les enfants qui viendront nous font » et pas le contraire.
Ah bah là, ça sent la fin. Merci beaucoup Philippe Guéluc, merci pour tous ces vœux. Ne vous gênez pas aussi, parce que les vœux, c'est quand même tout le mois de janvier. Donc 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35. Semaine prochaine, on va parler de zéro plastique, zéro déchet, des actions un peu partout, avec une jeune fille de 22 ans qui s'appelle Aline Gubry, entre autres. Merci à Florent Beauvalet qui était à la technique, à Camille Blanès, notre assistante, Hélène Biziot qui réalisait l'émission, Anne Gouzon qui nourrit les sites, le podcast, bah oui, abonnez-vous podcast de CO2, ben voilà, une bonne résolution, pourquoi pas. L'Atelier Montilus, ce sera demain à 19h54, et puis entre 5h et 6h du matin, ben vous le savez, vous avez une rediffusion de CO2, mon amour. Excellent week-end à tous.